Les matins de France Culture. Florian Delorme.
Si les mensonges, théories du complot et autres légendes urbaines sont vieux comme le monde, la force de frappe instantanée et illimitée des réseaux sociaux leur confère aujourd'hui une influence sans égale. Résultat, la confiance dans la parole politique s'étiole, le travail journalistique est mis en cause, l'objectivité scientifique se voit concurrencée. Bref, ce sont nos démocraties elles-mêmes qui sont menacées dans l'ère de la post-vérité. Alors que le gouvernement se lance sous l'impulsion d'Emmanuel Macron dans une périlleuse tentative de légiférer sur l'interdiction des fake news, France Culture apporte sa contribution en lançant en partenariat avec France Info, un nouveau programme, Les Idées Claires. Chaque semaine, c'est Nicolas Martin, producteur de la méthode scientifique, qui recevra un expert autour d'une question dans laquelle la vérité, la véracité est mise à mal. Ces échanges sont à retrouver en podcast audio, mais aussi dans un format vidéo court de 3 minutes, d'ores et déjà disponible sur le site de France Culture. Et puis, par ailleurs, vous pourrez aussi retrouver toute cette semaine une série documentaire de Franck Cuveillé pour LSD, intitulée L'agnotologie, la fabrique de l'ignorance. Les matins de France Culture, donc, s'inscrivent dans cette démarche pour tenter de mieux comprendre ce qu'est la post-vérité, sa nature, les conditions de sa production, de sa diffusion et de sa réception.
Si on veut que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dis reste entre nous. Donc pas de tweet, pas de post sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique.
Eh oui, le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. On se souvient cet extrait de l'enregistrement à huis clos donné par dans un cours de Laurent Wauquiez à l'école de management de Lyon, dévoilé par l'émission Quotidien de Yann Barthès, c'était en février dernier. Notre invité ce matin pour parler justement de bullshit, de post-vérité, c'est Sébastien Dieguez. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes chercheur en neurosciences à l'université de Fribourg. Vous êtes un spécialiste de la psychologie du complotisme. Et puis, vous sortez, là, il y a quelques jours maintenant, cet ouvrage Total Bullshit, justement, on va en parler, au cœur de la post-vérité. C'est paru au PUF. Dans votre livre, vous montrez comment, dans tous les domaines du débat public, la simple opinion, conviction personnelle prétend désormais l'emporter sur la vérité des faits. C'est un livre sur la nature, je le disais, de la post-vérité, sur les mécanismes aussi de sa diffusion. Alors, dans l'avant-propos de votre livre, vous rappelez que si le concept de post-vérité a fait une entrée fracassante dans le dictionnaire récemment, finalement, les accommodements avec la vérité factuelle sont bien plus anciens. Ils ne sont pas forcément caractéristiques de notre temps. Vous évoquez notamment le livre d'Anthony Trollope de 1875. Quelle époque sur ce Londres de l'époque victorienne où ignorance et manipulation étaient de mise. Vous parlez aussi évidemment de 1984 de George Orwell. Mais il y a un auteur dont les travaux vous ont servi de socle, ceux du philosophe Harry Frankfurt, qui avait introduit justement ce concept de bullshit dans un livre de 1986 intitulé « On Bullshit » qui restait très longtemps connu des seuls philosophes et qui, 20 ans plus tard, a été, disons, a connu une diffusion plus large. Est-ce qu'on peut peut-être commencer, Sébastien Dieguez, par définir ce concept, nous dire en particulier quel rapport il entretient à la vérité et en quoi cet essai vous paraît particulièrement éclairant, pertinent, dans la mesure où, en réalité, le phénomène du bullshit est aussi vieux que le monde, c'est-à-dire en tout cas que le langage, Sébastien Dieguez.
Oui, c'est ça. Donc, Harry Frankfurt publie un essai très bref, mais assez dense, qui s'appelle On Bullshit. Donc, déjà, il faut souligner que le titre est lui-même un peu bullshitesque, sous la forme d'un titre prétentieux à propos du bullshit ou sur le bullshit, dans un cadre académique très sérieux, puisque c'est un philosophe analytique à l'université de Yale à l'époque. Et qui avançait une idée quand même relativement neuve et intéressante à l'époque, parce que si les phénomènes existent depuis toujours, ça ne veut pas dire qu'on a bien mis le doigt dessus. Donc ce que le service qu'a rendu Harry Frankfurt, c'était de délimiter un peu les contours de ce que lui appelait le bullshit, en particulier en le distinguant du mensonge, puisqu'on parle beaucoup de mensonges d'État, de mensonges de la politique. Frankfurt disait qu'au moins le mensonge, on sait à quoi s'en tenir, quoi. C'est-à-dire que le menteur, il dissimule la vérité. Et pour le faire, il doit connaître la vérité.
Alors que le bullshitter ne se préoccupe pas de la vérité.
Exactement. Tandis que le menteur tient, pour ainsi dire, la vérité en respect, ne serait-ce qu'en la connaissant et en la cachant. Le bullshitter n'a pas du tout ce problème-là, puisqu'il s'en fiche complètement. Et donc Frankfurt définissait le bullshit comme une certaine forme d'indifférence à l'égard de la vérité. Mmh. C'est-à-dire que le bullshitter peut très bien dire la vérité. Ce qu'il dit n'est pas nécessairement faux, mais que ce soit faux ou que ce soit vrai, il s'en fiche complètement. Mmh. Ce qu'il dit, c'est dans un tout autre but. Généralement, c'est pour impressionner son monde, pour se faire mousser, pour noyer le poisson, pour tourner autour du pot. Enfin, il y a tout un tas de stratégies que le bullshit peut accomplir.
Et quelle différence finalement entre le bullshit et la post-vérité ? La post-vérité serait le régime mondialisé, globalisé du bullshit ?
Alors voilà, j'avance l'idée dans le livre que au cœur de la post-vérité, on trouve surtout ce phénomène-là, le bullshit, et que donc la post-vérité est à distinguer de la propagande à l'ancienne, hein, où par la force et par la brutalité, on impose une vérité, ce qui est quand même assez laborieux à accomplir. Hein. C'est pas de tourpeau non plus d'être un régime dictatorial. Vous devez faire avaler pas mal de couleuvres. Vous devez contrôler ceux qui osent poser des questions et s'insurger contre cette vérité. Parce qu'avec la post-vérité, c'est beaucoup plus simple d'une certaine manière. En fait, vous submergez les gens sous tout un tas de faits alternatifs, de théories du complot, de contradictions, qui finalement déboussolent et produit une sorte d'état stuporeux dans lequel le rapport à la vérité est totalement dénaturé.
Oui, vous dites que la grande force de la post-vérité, c'est qu'elle n'impose aucune vérité particulière. Voilà ce qui la rend redoutable.
Exactement, oui. On parle beaucoup des manipulations russes. Ce qui se passe, en fait, c'est pas à proprement des manipulations, une sorte de doxa qui est imposée. Alors évidemment, il y a des stratégies, des buts, mais essentiellement, ça consiste à déboussoler vraiment, quitte à se contredire. Hein. On reproche aussi à Trump de mentir beaucoup. Alors c'est vrai, il ment, mais d'une certaine manière, il s'en fiche un peu, parce qu'il peut très bien dire le contraire du mensonge qu'il a dit la veille, dire un autre mensonge qui colle pas avec son mensonge précédent. Et donc c'est plutôt ça la post-vérité, dont le moteur, moi j'avance que c'est quelque chose qui ressemble au bullshit.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que finalement Donald Trump est davantage un bullshitter qu'un menteur, et c'est pas rien, parce que en réalité, dans le mensonge, la relation de confiance avec le locuteur, elle peut être rompue, parce qu'on cherche à tromper, on cherche à masquer la vérité. Dans le bullshit, c'est pas le cas, la relation de confiance avec le locuteur, elle est toujours intacte. C'est évidemment essentiel quand on s'intéresse à la production de bullshit en politique.
Oui, c'est d'ailleurs un des avantages du bullshit. Le mensonge, c'est quand même assez risqué, hein, parce que on peut vous pincer, vous pouvez vous faire coincer, on peut prouver en fait que vous avez menti. Vous prenez pas du tout ce risque-là avec le bullshit. C'est quelque chose qui vous permet à tout moment de rétro-pédaler si c'est nécessaire, ou de dire mais non, j'ai jamais dit ça, voyons, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Donc vous oscillez comme ça entre le vrai et le faux sans vraiment savoir vous-même. Hein. Ça c'est une question assez technique. Enfin après tout c'est un concept philosophique. Est-ce qu'on bullshit exprès ou est-ce que le bullshitter a pas vraiment conscience de bullshiter ? C'est intéressant par rapport à l'extrême. Vous avez passé de Laurent Wauquiez, quand il dit on va pas, sinon je pourrais vous sortir le bullshit que je vous dis sur le plateau. Est-ce que ça c'est quand même du bullshit? Est-ce qu'en affirmant qu'on ne bullshit pas, finalement on bullshit quand même? C'est le genre de questions qui sont quand même assez techniques comme ça que j'aborde dans le livre.
Et oui, et puis par ailleurs, on pourrait penser que les bullshitters sont une catégorie d'individus très identifiés, mais en réalité on produit tous un peu du bullshit, on est tous des bullshitters.
Voilà, c'est une des limites, une des difficultés du concept de bullshit, à savoir que, comme Frankfurt disait que c'est une indifférence à l'égard de la vérité, dans le fond, est-ce qu'on est vraiment toujours très soucieux de la vérité ? Non, c'est compliqué, la vérité, on n'est pas tous des scientifiques, on n'a pas tous le temps de faire des expériences pour savoir si telle chose est vraie ou est fausse. Et donc, le concept prend le risque un peu de s'étendre trop largement. Si ça c'est du bullshit, alors tout est du bullshit. Et nos interactions quotidiennes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de bullshit, ne serait-ce que dans le tact, la politesse, qui sont des comportements qui sont pas soucieux de la vérité.
Et ce qui veut dire aussi que si nous faisons tous du bullshit, si on est tous des bullshitters, ça veut dire aussi qu'il y a une très forte tolérance dans la société, dans la production de bullshit.
Voilà, on s'en
accommode assez facilement.
C'est ce que Frankfurt appelait le paradoxe du bullshit. D'une part, il disait que le bullshit est pire que le mensonge, parce que le mensonge au moins respecte la vérité, tient compte de la vérité. Mais alors pourquoi on est plus tolérant vis-à-vis du bullshit que du mensonge? Pourquoi celui qui ment généralement, surtout si on a détecté le mensonge, la rupture de confiance fait que cette personne est ostracisée ou réprouvée. On parle plus au menteur. Généralement, il doit démissionner. Enfin, il doit se passer quelque chose quand quelqu'un a menti. Tandis que le bullshitter, lui, il agit en quasi totale impunité. Il n'y a pas de loi contre le bullshit.
Peut-être qu'il y en aura un, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Mais l'un, évidemment, des bullshitters les plus renommés, c'est Donald Trump. Vous en avez parlé, le président américain est un véritable artiste en la matière. Or, il est aussi l'incarnation, Sébastien Dieguez, du capitalisme, et peut-être sous ses traits les plus outranciers. Est-ce que c'est totalement un hasard? Quel lien est-ce qu'on peut établir entre le bullshit et donc la post-vérité et le capitalisme?
Alors voilà, quelles sont les origines de la post-vérité? C'est une question qui est très débattue. Hein. Frankfurt pensait que c'était une conception dévoyée de la démocratie, dans le sens où chacun a le droit d'avoir son opinion. Mais du coup, c'est comme si on était tenu de donner son opinion sur tout et n'importe quoi. Et en particulier quand on ne sait pas de quoi on parle. Hein. Donc le citoyen moderne est tenu d'avoir une opinion sur tout et n'importe quoi, ce qui est générateur de bullshit. Frankfurt postulait aussi une version plus philosophique, donc un rapport à la vérité qui s'est étiolé suite à certaines théories, notamment du postmodernisme, où la vérité paraissait suspecte et donc c'était un concept hégémonique.
Et d'ailleurs, vous dites que postmodernisme et post vérité sont tous les deux produits par le bullshit.
Oui, parce que on a pu dire que la post-vérité, dans le fond, c'était à cause de Foucault, Derrida, Deleuze, tous ces philosophes qui réfléchissaient au concept de vérité.
C'est leur prêter beaucoup d'influence, dites-vous, dans le livre.
Voilà. Donc, moi, je me dis, c'est tout à fait possible, dans le fond, que ces théories post-modernes et la post-vérité sont toutes deux, en fait, le produit du bullshit. Maintenant, sur le capitalisme, c'est une idée qui avance, bon, capitalisme au sens large, néolibéralisme, mais c'est surtout la montée d'une certaine forme d'individualisme qui est quand même consubstantielle aussi aux démocraties modernes, où l'individu a sa liberté de conscience et d'opinion, et encore une fois, comme il a le droit de penser tout ce qu'il veut, ça lui donne le droit de dire n'importe quoi, en quelque sorte.
Est-ce que vous diriez qu'il y a, Sébastien Dieguez, ces dernières années, une augmentation du bullshit dans l'espace public et dans la parole politique? Si c'est le cas, comment comprendre? Est-ce que c'est le résultat, va falloir y venir, Sébastien Dieguez, de l'émergence des réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a aussi autre chose? Quelle part, justement, de responsabilité pour ces nouvelles technologies?
Voilà, les nouvelles technologies, on leur met beaucoup de responsabilités sur le dos, hein, mais c'est sûr que ça offre une sorte de moteur au bullshit. Il y a une infrastructure technologique qui favorise, pour ainsi dire, les traits psychologiques qui sont au cœur du bullshit, en particulier une certaine forme de narcissisme et une certaine forme de paresse intellectuelle. Hein. Il y a cette vieille plaisanterie quand on dit c'est mon avis et je le partage. Eh bien, c'est devenu tout à fait littéral. Vous voyez votre avis passer quelque part sur les réseaux sociaux, et comme c'est votre avis, vous le partagez littéralement en un clic.
Ouais, donc, vous expliquez que les réseaux sociaux ont permis l'émergence de bulles discursives, des extensions du moi par lesquelles la réflexion est évacuée au profit de l'indignation. Vous parlez, je vous cite, d'une escalade de la pureté morale et de la diabolisation des opinions contraires, où tout le monde tente de se positionner au-delà de la mêlée, encore plus perspicace et épris de justice que les autres. Les réseaux sociaux, c'est devrait en constituer une véritable rupture dans les processus psychosociaux par lesquels se forgent les opinions. Mais attention, hein, on ne devrait pas penser que tout cela est totalement nouveau non plus.
Non, c'est pas totalement nouveau, mais c'est marrant aussi de constater l'évolution des choses. Il y a quelques années, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, on nous encourageait à nous indigner. Indignez-vous, on disait. Aujourd'hui, les gens s'indignent, ils s'indignent quasiment automatiquement. En fait, y a des études qui montrent que le sentiment moral et émotionnel de l'indignation est plutôt rare dans la vie quotidienne. Vous passez pas vos journées à vous indigner dans la rue. Ça a une fonction sociale de s'indigner du comportement d'autrui parce qu'il a violé telle ou telle norme. Maintenant, si l'indignation devient systématique, facile et non court dans le fond pas trop de risques, c'est comme si on dénaturait en fait la mécanique psychologique normale humain. Vous n'êtes pas censé vous indigner tout le temps, et pourtant c'est ce que permettent en fait ces infrastructures technologiques.
Et je rappelle que dans les années 50, c'est vous qui rappelez dans votre livre, le psychologue Leon Festinger avait avancé le concept de dissonance cognitive pour décrire les stratégies d'évitement face à des opinions contraires aux siennes. Restons sur les réseaux sociaux et la question de Twitter. Très récemment, la revue Science consacrait un dossier à la propagation des mensonges sur Twitter. On a plusieurs chercheurs du Massachusetts Institute of Technology qui se sont fondés sur la propagation de 126 000 histoires différentes qui se sont répandues sur Twitter entre 2004 et 2017. Et le résultat montre que les fausses nouvelles sont diffusés plus vite, plus loin, plus largement que les vrais. En moyenne, il faut 6 fois plus de temps aux vrais qu'aux faux pour toucher 1500 personnes, nous montre par exemple l'étude. Qu'est-ce qui fait que sur Twitter, le faux se diffuse plus vite, plus fort que le vrai?
Alors, on a pu postuler ce qu'on appelle un principe d'asymétrie du bullshit, hein, mais qui peut s'appliquer à bien d'autres domaines. C'est tout simplement plus simple de dire une connerie que de dire la vérité, parce que, comme disait Rousseau, le faux a mille et une manières de se manifester, tandis que le vrai est d'un bloc. Il n'y a qu'une manière d'avoir raison. Donc vous avez déjà cette asymétrie, et surtout ça prend beaucoup plus de temps de corriger une erreur. Donc l'étude en question parue dans Science, elle est très intéressante, parce que, puis ça aussi c'est un des aspects fascinants du bullshit contemporain, en fait, c'est qu'on peut l'étudier quasiment en live, parce que ça laisse des traces, ces réseaux sociaux. Donc ça, c'est très intéressant pour les chercheurs. Et là, en l'occurrence, c'était mettre beaucoup de moyens technologiques pour aller compulser dans ces millions de tweets, pour au fond revenir à la psychologie, c'est parce qu'au fond c'est des cerveaux humains qui font ces choses-là. Bon, la nouveauté là-dedans, elle est quand même difficile à trouver. C'est simplement que les gens ont plus tendance à partager des choses qu'ils trouvent sensationnelles puis qui vont dans leur sens, plutôt que des choses barbantes, même si elles sont vraies.
C'est quand même un formidable désaveu pour ces scientifiques à l'origine du web qui, il y a quelques années, nous expliquaient que le numérique serait un formidable outil de diffusion de la culture, de la vérité, du savoir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que 20-30 ans après, on en soit passé de l'espoir au désastre? Et quelle responsabilité, en quelques mots, pour les scientifiques?
Bon, ça reste quand même, il faut quand même pas être négatif, ça reste quand même très très utile. Sociaux, moi j'apprends beaucoup de choses à un rythme quotidien. Voilà, donc il y a une façon sombre à laquelle il va falloir faire face. On ne sait pas exactement comment encore. Ça aussi, c'est un aspect intéressant. Quel genre de solution il faut apporter?
Bah justement, on essaiera d'en parler. Mais ça sera pour la deuxième partie de ces matins de France Culture. Je rappelle que nous parlons de post-vérité et de bullshit aussi parce que France Culture lance une nouvelle émission, Les Idées Claires, qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Une émission proposée par Nicolas Martin, avec à la fois un podcast audio, mais aussi un format vidéo court. On peut tout de suite déjà le retrouver sur le site de France Culture.